Vous écoutez, on lit pour vous.
Changer les habitudes des usagers de la route, un texte d'Abraham Santerre, paru le 21 août 2025 dans le journal Le Guide. Le service de transport et de la mobilité de la MRC de Brome-Missisquoi a une lourde tâche sur ses épaules. En offrant du transport adapté et collectif, il poursuit sa mission d'améliorer la mobilité des résidents tout en étant durable, c'est-à-dire en respectant l'environnement. Le journal a rencontré le directeur du service de transport et la mobilité de la MRC de Brome-Missisquoi afin de discuter des dossiers en cours. L'objectif de ces initiatives, c'est principalement de tester le territoire, souligne d'entrée de jeu Khalil El-Fatmi. Il mentionne qu'une offre de transport était présente sur le territoire auparavant, mais qu'elle était incomplète. Citation « À travers tout ça, je me retrouve avec un manque de données pour bâtir une offre de service qui répond à un besoin qui est réel. » Fin de citation, explique-t-il. Objectif. La MRC de Brome-Missisquoi a pris compétence et offre du transport adapté et collectif depuis 2008. Parmi ses missions, elle souhaite améliorer les habitudes des gens. Monsieur El-Fatmi est conscient que l'auto-solo est toujours la reine sur les routes. Citation. Plusieurs choses peuvent expliquer, convaincre et changer les habitudes des gens, mais la gestion du changement, c'est un processus qui est extrêmement long, qui prend du temps. Fin de citation, reconnaît-il. Ainsi, cela prend plus que quelques mois pour s'adapter. C'est pour cela que des projets pilotes ont des périodes de gratuité et sont bonifiés avec le temps. Grâce à une enveloppe budgétaire du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, la MRC de Brome-Missisquoi teste des idées sur le territoire. Son but est d'innover, d'éviter l'auto-solo ainsi que d'encourager le transport collectif et la mobilité durable. Citation. Avant la pandémie, les gens ne se déplaçaient pas comme aujourd'hui et dans 5 ans, ce sera aussi différent. Fin de citation, est convaincu le directeur du service de transport et de la mobilité. Selon lui, la région de Brome-Missisquoi a un fort potentiel à développer, surtout en transport collectif. Citation. Il ne reste qu'à tester. Fin de citation, ajoute-t-il. Chiffres. Le journal a obtenu des chiffres sur les projets de transport de la MRC de Brome-Missisquoi. Pour le transport adapté, qui est le service le plus rodé, on parle d'environ 27 000 demandes annuellement partout dans la région. Quant au transport collectif intermunicipal, qui offre une connexion de n'importe quelle ville de la région à Cowansville, ce sont 35 000 déplacements enregistrés chaque année. Du côté des projets pilotes, le transport à la demande dans les villes de Bromont et Farnham est devenu gratuit du 15 juillet au 15 août. Le portrait est complètement différent là où on inspire l'action, environ 350 demandes, que là où on grandit ensemble, environ 30 demandes, depuis le lancement du service le 24 février dernier. Citation. On arrive avec une nouvelle offre qui n'était pas existante avant, pour laquelle les citoyens se sont déjà arrangés. Le défi, c'est de les convaincre de venir essayer le service. C'est beaucoup moins dispendieux de prendre le transport collectif que de s'acheter un véhicule. Fin de citation, réagit M. El-Fatmi. À Cowansville, le circuit municipal traversé par une ligne de bus semble bien fonctionner. Pour 8 mois d'opération en 2024, 2 778 déplacements ont été enregistrés, alors que pour les 6 premiers mois de 2025, le nombre monte à 2 623. Le projet pilote a également eu une période de gratuité l'été dernier. Citation. Le circuit municipal de Cowansville prend fin le 1er octobre. On va s'asseoir avec la ville et déterminer la suite. Ellipse. Il y a plusieurs variables à étudier pour décider si on pérennise le projet ou non. Fin de citation, déclare Khalil El-Fatmi. Soulignons également le circuit interrégional Brome-Yamaska, un nouveau service qui entrera en fonction le 25 août. Il desservira Bromont, Cowansville, Granby, East Farnham et Saint-Alphonse-de-Granby. Autopartage. dans le cadre du Laboratoire d'innovation en mobilité intelligente et territoriale, LIMIT, un projet de covoiturage comme Communauto à Montréal pourrait voir le jour dans la région de Brome-Missisquoi. Citation: il n'y a pas d'échéance ou de date précise, mais on a l'objectif d'acquérir des véhicules électriques et de les mettre à disposition des citoyens moyennant une tarification qui est à établir. Fin de citation, confirme le directeur du service de transport et de la mobilité de la MRC. Ce projet est en élaboration. Il reste à conclure des ententes avec les municipalités concernées, puis la phase de planification pourra débuter. D'autres idées pourraient se concrétiser dans le futur. Khalil El-Fatmi mentionne la possibilité d'offrir des vélos électriques en location, par exemple. Le comité directeur dont il fait partie a le rôle d'étudier, d'évaluer et de revoir les sommes allouées au projet. C'était « Changer les habitudes des usagers de la route », un texte d'Abraham Santerre, paru le 21 août 2025 dans le journal Le Guide.
C'est préoccupant. Près de 7 ambulanciers sur 10 souffrent de problèmes de santé mentale au Québec. Un texte de l'agence QMI, paru le 12 novembre 2024 dans TVA Nouvelles. Le métier d'ambulancier est encore plus difficile pour la santé mentale que pour la santé physique, surtout depuis la pandémie, selon une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski, UQAR. Quand on regarde les statistiques d'absence au travail depuis 3 ans, la santé mentale a dépassé la santé physique, a déclaré Charles Côté, professeur et chercheur à l'UQAR. Parmi les 282 répondants à travers la province, dont 73 dans l'est du Québec, près de 7 individus sur 10 souffrent de la dépersonnalisation, ce qui signifie notamment une baisse d'empathie envers leurs patients. Environ 65% d'entre eux ont aussi un sentiment faible ou modéré d'accomplissement personnel et 44% des participants ressentent un épuisement professionnel. C'est préoccupant, et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'avec les résultats de cette étude, ça va nous donner des outils pour pouvoir travailler pour prévenir ces problématiques en lien avec la santé mentale, a mentionné Jérémy Landry, vice-président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec. C'est d'ailleurs cette fédération, avec l'argent qui provient de la négociation de la convention collective, qui a commandé ce rapport. Le métier de paramédic, SIC, n'a jamais fait l'objet d'analyses en lien avec la santé mentale au Québec. Oui, il y a eu des études au niveau national et aux États-Unis, mais pour les paramédics du Québec, aucune étude n'avait été faite dans un sens, a ajouté M. Landry. Les hommes particulièrement touchés. Cette nouvelle analyse a également démontré que les hommes ont obtenu des résultats de détresse plus élevés que les femmes. Les hommes sont souvent sous-représentés pour des études qui touchent des éléments comme la dépression, l'anxiété, le trouble du stress post-traumatique, parce que les hommes, en général, sont silencieux, a expliqué le professeur Charles Côté. Pour remédier à la situation, ce dernier soutient que l'ajout d'un cours sur les risques psychosociaux du métier lors de la formation au cégep serait bénéfique. J'ai l'impression que les attentes des jeunes paramédics et la réalité ne correspondent pas, a-t-il indiqué. Oui, la formation pourrait être rehaussée, mais je pense qu'avant même la formation, il va vraiment falloir que les outils soient mis en place au niveau des entreprises ambulancières, a pour sa part mentionné M. Landry. Les résultats de l'étude ont récemment été présentés au ministère de la Santé et des Services sociaux. Les 3 chercheurs estiment désormais que la balle est dans leur camp. Il faut agir, parce que ce n'est pas la première fois que les paramédics cognent à la porte, a illustré Charles Côté. Environ 5 000 paramédicaux sont actifs actuellement au Québec. Les répondants de l'étude représentent une portion de 16,6 % Sur les 282 répondants, la majorité est des hommes, 60 %. Les participants étaient surtout âgés de 18 à 29 ans, 30,9 % et de 30 à 39 ans, 31,2 %. C'était « C'est préoccupant, près de 7 ambulanciers sur 10 souffrent de problèmes de santé mentale au Québec », un texte de l'agence QMI, paru le 12 novembre 2024 dans TVA Nouvelles.
Les boutiques Hortex à la frontière sont à bout de souffle. Un texte d'Annabelle Caillou paru le 18 juillet 2025 dans Le Devoir. En plein cœur des vacances estivales, les boutiques Hortex longeant la frontière canado-américaine tournent au ralenti. Depuis le début de la guerre commerciale lancée par le président Trump, les passages de touristes, canadiens comme américains, se font plus rares. Un coup dur pour ces commerces dont la survie dépend entièrement du va-et-vient transfrontalier. C'est vide, c'est triste comme c'est vide, lance avec désarroi Philippe Bachand en pointant du doigt le grand stationnement devant sa boutique Hortex de Phillipsburg, en Estrie. Lors du passage du Devoir jeudi matin, seules 5 voitures étaient garées devant l'édifice. 4 d'entre elles appartenaient aux employés. À l'intérieur, c'était le calme plat. Hormis les travailleurs, un homme dans la soixantaine flânait dans les rayons à la recherche d'un souvenir à emporter du côté sud de la frontière. En une heure, à peine une poignée de clients ont franchi les portes de la boutique. Le poste douanier voisin de Saint-Armand-Philippsburg était aussi peu fréquenté. Quelques camions et de rares voitures, principalement américaines, ont traversé lors de notre visite. Il s'agit pourtant d'un des postes douaniers les plus occupés au Québec. Il se situe sur la route menant à Burlington, dans le Vermont, ou à Boston, dans le Massachusetts. L'été, le stationnement est plein habituellement, soutient le copropriétaire de la boutique Hortex. Qu'on soit un mardi, un jeudi ou un dimanche, il y a toujours du monde. Pour nous, c'est la grosse saison. C'est là qu'on fait le plus de ventes. Moins de voyageurs. Les droits de douane imposés sur les produits canadiens par le président américain Donald Trump ont complètement changé la donne. Depuis février, le trafic transfrontalier est en chute libre. Nombre de Canadiens ont décidé de boycotter les États-Unis et nos voisins du Sud sont aussi moins nombreux à nous rendre visite. Les plus récentes données du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, CBP, publiées cette semaine, confirment cette tendance. En juin, le nombre de voyageurs qui se sont rendus en voiture du Canada vers les États-Unis était de 3,2 millions, comparativement à 4,2 millions au mois de juin de l'année précédente, soit une baisse de 24,5 %. Des chiffres de Statistique Canada montrent, quant à eux, une baisse de 10,5 % du nombre de voyageurs américains qui sont entrés au Canada en juin, 1,4 million, comparativement à pareille date l'an dernier, 1,6 million. Et si l'on compare les entrées de 2025 à celles de 2019, avant la pandémie, la diminution est de 17,5 %. Vente en baisse. Inévitablement, cette baisse de l'achalandage à la frontière se répercute sur le chiffre d'affaires des boutiques Hortex voisines. À Phillipsburg, M. Bachand a enregistré une baisse d'environ 30 % de ses ventes depuis février 2025. Mais pas question pour le moment de congédier son personnel. « C'est pas le centre-ville de Montréal, ici », lance-t-il. Les gens ne font pas une heure de route pour travailler chez nous. Le bassin d'emploi n'est pas très grand. Les gens qu'on a, ils sont là depuis longtemps, ils sont compétents, on veut les garder. Pour équilibrer ses comptes, il n'a pas remplacé les départs à la retraite ni les congés de maladie. L'été, on engage entre 15 et 20 étudiants en plus, d'habitude. Ce n'était pas nécessaire cette année, ajoute-t-il. Et en magasin, il limite les commandes pour éviter les pertes. C'est un coup dur. On se remettait tout juste de la pandémie, déplore M. Bachand, rappelant au passage les restrictions frontalières appliquées pendant de longs mois à partir de mars 2020. Depuis 2019, on est passé de 50 employés à 22. On n'a jamais retrouvé la situation d'avant. Commerces en péril. Et encore, il se considère moins à plaindre que d'autres de ses confrères. Certains commerces hors taxes de plus petite taille ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires, note celui qui est aussi vice-président de l'association Frontières hors taxes, AFHT. Le propriétaire du Woodstock Duty Free Shop à Belleville, au Nouveau-Brunswick, a annoncé cette semaine qu'il fermerait boutique d'ici la fin de l'été après avoir écoulé son stock. La boutique hors taxe de Beauce, non loin de Saint-Théophile, et celle de Osoyoos, en Colombie-Britannique, ont aussi du mal à joindre les deux bouts. Personne n'échappe à la crise, personne n'est à l'abri. Certains tombent juste plus vite que d'autres, commente M. Bachand, espérant ne pas en arriver à fermer l'entreprise familiale créée par sa mère en 1988. Appel à l'aide. Son association, qui regroupe une trentaine de boutiques au pays, a multiplié les appels à l'aide à Ottawa. L'AFHT demande notamment une aide d'urgence pour aider les boutiques hors taxes à survivre et à maintenir leur personnel en place. Rappelons que ces commerces ne peuvent se tourner vers la livraison ou la vente en ligne pour s'adapter à la situation. Il y a urgence, martèle M. Bachand, soulignant que les boutiques hors taxes représentent une vitrine pour les produits du Québec et du Canada qui se retrouvent sur leurs tablettes. Ces commerces constituent par ailleurs des piliers de l'économie locale dans les zones rurales frontalières. Tout en étant engagés dans des négociations complexes sur un nouveau partenariat économique et de sécurité avec les États-Unis, le gouvernement surveille attentivement les répercussions dans l'ensemble de l'économie et n'hésitera pas à proposer des mesures pour soutenir les travailleurs et les entreprises au besoin, a répondu par courriel le ministère des Finances. D'ici à ce que les choses bougent, d'autres commerces auront le temps de fermer, craint Philippe Bachand. C'était « Les boutiques hors taxes à la frontière sont à bout de souffle », un texte d'Annabelle Caillou paru le 18 juillet 2025 dans Le Devoir.
Les étudiants en ont assez qu'on leur refile la facture. Un texte de Myriam Arsenault paru le 1er octobre 2025 dans La Voix de l'Est. L'Union étudiante du Québec, UEQ, la Fédération étudiante collégiale du Québec, FECQ, le MAGE, UQAC et l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi, AGE-ECC, allient leurs forces pour passer un message clair au gouvernement. Les étudiants n'en peuvent plus des coupes budgétaires en éducation supérieure et en ont assez de se faire refiler la facture. Les associations étudiantes dénombrent les coupes dans les études supérieures, dont fait partie l'annulation des bourses perspectives, en plus des coupes dans le programme Travail-études. Tout ça quand la facture des étudiants, elle, continue de croître. Des impacts déjà présents. Les étudiants du Saguenay-Lac-Saint-Jean ressentent déjà les effets de toutes ces coupes. Au cégep de Chicoutimi, les coupes chez le personnel de soutien se font particulièrement sentir. La présidente de l'AGE-ECC, Lily Lecavalier, nomme en exemple des locaux moins salubres et accueillants après l'abolition de deux postes en conciergerie et même la fermeture temporaire de la bibliothèque sur l'heure du midi par manque de personnel. Ce dernier point a pu heureusement se régler avec l'embauche d'un étudiant, mais démontre, selon elle, la fragilité de tous ces services. Elle ajoute également que dans le sport, l'improvisation et la culture, les coûts ont explosé et que certains étudiants abandonnent déjà ces activités, faute de moyens. Les sorties terrain organisées dans les cadres des cours sont annulées. Et tout ce qui rendait nos études plus riches disparaît petit à petit, se désole la présidente de l'AGE-ECC. Les étudiants de l'UQAC aussi voient leurs factures être augmentées. La hausse du prix de la vignette de stationnement, de la formation continue, ainsi que des différents frais de service comme la reconnaissance des acquis ou la production de documents officiels inquiète les étudiants, soutient le coordonnateur général du MAJ UQAC, Sadou Diallo. Le temps est venu de dire haut et fort que l'éducation supérieure n'est pas une dépense, mais l'investissement le plus précieux pour notre avenir collectif. Le temps est venu de mettre fin aux coupures qui fragilisent nos services, continue M. Diallo devant les médias réunis. Campagne nationale. Au cours de la session d'automne, l'UEQ, qui regroupe 14 associations étudiantes universitaires, et la FECQ, qui représente quelque 28 cégeps, feront une tournée des différentes régions du Québec pour leur campagne nationale « L'austérité frappe en enseignement supérieur ». L'arrêt à Chicoutimi est donc le premier d'une longue série où les universités peuvent mettre leurs revendications de l'avant. Avec ces points de presse, l'UEQ et la FECQ espèrent que leur message sera entendu. Alors que la précarité étudiante atteint des sommets, la population étudiante a plus que jamais besoin des services à sa disposition. Mais quand ces services mêmes se trouvent à court de ressources, l'inaccessibilité aux études supérieures ne fait qu'augmenter, conclut Christopher Zéphir, président de la FECQ. C'était « Les étudiants en ont assez qu'on leur refile la facture », un texte de Myriam Arsenault, paru le 1er octobre 2025 dans La Voix de l'Est.
SLA. La pointe de l'iceberg dans le Val-Saint-François. Un texte d'Anthony Ouellet, paru le 7 mai 2025 dans La Tribune. Des citoyens du Val-Saint-François se sont montrés inquiets du nombre de cas de sclérose latérale amyotrophique, SLA, recensés par la santé publique dans leur MRC, qu'ils trouvent peu élevés. Tous saluent toutefois la volonté des experts d'aller au fond de l'affaire. Mardi, la santé publique estrienne a présenté les premiers résultats de son enquête sur le nombre élevé de cas de SLA dans le Val-Saint-François. Essentiellement, on en dénombre 20 entre 2012 et 2025, et de possibles facteurs de risque environnementaux seront bientôt étudiés en profondeur par les experts en santé publique. Mais voilà, pour plusieurs citoyens présents à la rencontre d'informations tenue à la Poudrière de Windsor mardi soir, ces 20 cas confirmés représentent un nombre bien bas par rapport à ce qu'ils ont observé dans leur communauté. C'est le cas de Jonathan Garot, qui a pris la parole devant les quelques 110 citoyens présents et les expertes en santé publique du CIU3S, qui donnait la présentation pour signaler que, selon lui, des cas sont passés sous le radar. Sa femme, Catherine Hudon, est elle-même décédée de la SLA. Elle était de Richmond. Quand Catherine a eu son diagnostic en 2018, quatre voisins sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient eu un cas dans leur famille. Je me suis dit que ça faisait beaucoup, quatre personnes dans ma rue. Peut-être que c'est le hasard, mais de ce que j'entends à Richmond, la SLA, c'est une maladie malheureusement bien connue. C'est presque rendu normal ou pas surprenant de mourir de la SLA, précise-t-il. Même son cloche pour Julie Dubois, la citoyenne de Windsor qui est à l'origine du signalement qui a poussé la santé publique estrienne à enquêter sur le phénomène. Je pense qu'il y en a peut-être plus que 20. Il y a des gens ici que je ne connais pas et qui arrivent avec d'autres histoires. Je suis mitigé, indique-t-elle. Selon la docteure Mélissa Généreux, médecin conseil à la santé publique estrienne, il pourrait y avoir de nouveaux cas qui seront recensés après la rencontre de mardi soir. Un code QR qui mène à un questionnaire de la santé publique a été mis à la disposition des citoyens et une dizaine d'entre eux l'ont balayé en quittant. Travail apprécié. Malgré tout, les citoyens sur place ont tenu à souligner la démarche de la santé publique. C'est une équipe de scientifiques chevronnés qui vont poser les questions. Le processus sera méticuleux et les questions se posent, mentionne M. Garraud. La directrice de la santé publique en Estrie, la docteure Isabelle Sanson, a par ailleurs voulu réitérer en entrevue avec la Tribune que son équipe arriverait bientôt à répondre à la question de l'excès ou non de cas dans le Val-Saint-François. En ce moment, des problèmes méthodologiques empêchent la santé publique de se prononcer sur ce point hors de tout doute. Disant être moins optimiste d'être en mesure de trouver une cause précise au cas de SLA dans le secteur, elle précise que l'enquête menée actuellement par son équipe pourrait déboucher sur des révélations intéressantes pour de futures recherches ou même des recommandations qui pourraient être bénéfiques pour l'ensemble du Québec. La docteure Sanson a par exemple évoqué la possibilité de la création d'un registre des cas de SLA au Québec, qui pourrait grandement faciliter la collecte et la comparaison de données sur cette maladie en province. Est-ce qu'un registre de SLA pourrait être utile pour favoriser plus de recherches et aider au niveau clinique? Peut-être que oui. Pour ce qui est du volet santé publique, donc prévention pour le moment, il est trop tôt pour le dire, mais d'avoir un registre dans notre situation nous aurait aidé à accélérer l'enquête, note quant à elle la docteure Généreux. La phase 2 de l'enquête, qui démarrait à toute fin utile mardi soir lors de la présentation des résultats de la phase 1, devrait s'étendre sur plusieurs mois. À la fin de celle-ci, il y aura 3 voies possibles. La fin de la démarche, si rien n'est trouvé, la poursuite avec un processus de recherche, si on identifie un lien environnemental commun, ou la fin de la démarche avec un processus de suivi si les résultats sont mitigés. C'était SLA, la pointe de l'iceberg dans Val-Saint-François, un texte d'Anthony Ouellette, paru le 7 mai 2025 dans la Tribune.